Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Les lunettes aussi, je ne sais pas si ça vous arrive qu'ils sortent une masque et poignée après les oreilles, après le... vous pouvez tourner dans Matthieu au chapitre 3. La lecture d'aujourd'hui est dans Matthieu chapitre 3, Marc chapitre 3, Marc chapitre 1, Luc chapitre 3. C'est l'histoire de Jean-Baptiste. On continue avec notre ami Jean-Baptiste. Si mon son n'est pas bon, vous me le dites. Sinon, moi, je prends pour acquis qu'on est parti. Hey, je pourrais-tu te demander un service? Pourrais-tu me donner de l'eau? Je pense que j'ai vidé celle de la semaine passée. J'ai l'impression, je prends un médicament ces temps-ci qui m'assèche. Donc, on continue sur Jean-Baptiste. J'étais supposé d'avoir un PowerPoint. Il n'y en aura pas, donc c'est pas grave, j'avais pas beaucoup d'images. Donc, le baptême de Jean-Baptiste. On est dans le désert de la Judée. On est en 26 après Jésus-Christ. Et on apprend que le petit cousin de Jésus a reçu la parole dans le désert et il va devoir commencer à faire deux choses, principalement à prêcher, puis à baptiser. Et la prédication, ça va être une prédication de repentance. Les trois évangélistes parlent de la citation de Ésaïe 40 qui dit qu'il va, par son moyen à lui, l'ange va dire au père de Jean-Baptiste, avant qu'il soit né, il va avoir une prophétie qui va dire que Jean-Baptiste, il va faire quatre choses, ou cinq choses, ou quatre choses qui sont résumées par une chose, plus proche ici. Il va ramener les cœurs des gens à Dieu. Il va ramener le cœur des pères à leurs fils. Il va ramener le cœur des rebelles à la sagesse des sages. Et finalement, résumer le tout, il va préparer un cœur bien disposé ou un peuple bien disposé à la venue du Messie. Donc, le petit cousin de Jésus passe avant, c'est son héros, H-E-R, en tout cas, pas héros dans le sens de héros, mais héros dans le sens de celui qui proclame la venue d'un roi. Et c'est comme ceux qui venaient et disaient, hey, le roi s'en vient, préparez, le roi va passer par ici, là, faites-y un beau chemin, faites-y un chemin aplani. Et le prophète Ésaïe disait que Dieu enverrait un messager avant d'envoyer le Messie pour que les chemins soient nivelés, que ce qui est tortueux soit redressé, que ce qui est raboteux soit aplani, que les vallées soient remontées, puis que les montagnes soient abaissées. Et Jean-Baptiste, il va faire ça. Il va relever des vallées, mais il va aussi aplanir des montagnes dans la manière qu'il va adresser le peuple. Alors, un peuple bien disposé pour le Seigneur. C'est ça que Dieu voulait avant. Et c'est ce que Dieu veut après que Jésus soit venu. Il veut un peuple bien disposé pour celui qui est venu et qui va revenir, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça? Il va prêcher. Il va aussi parler individuellement des gens. Puis il va aussi, des fois, adresser des gens devant d'autres gens, un groupe de gens. Et Jean, c'est un gars qui est habillé en peau d'animaux, il mange des sauterelles, c'est un gars qui est cheveux peut-être ébouriffés, là, imaginez les pierres à feu, là, quelque chose dans le genre. C'est un gars qui doit être une attraction en lui-même. Dans le fond, la Bible prend soin de dire qu'il était habillé en ceinture de cuir, une peau d'animal, puis tout. Fait que ça devait être quelque chose à voir. OK, donc, hein? Un marginal, quelqu'un qui est en dehors du centre, effectivement, oui. Et donc, on va lire dans Matthieu 3, au verset 1 à 9. Matthieu 3, verset 1 à 9. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Je suis dans la Louis II, 21. Il disait, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur et rendez ses sentiers droits. Jean portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de toute la région se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Je vais lire jusqu'au verset 9. Il dit, « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Ne vous avisez pas de dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. » Père, merci pour ta parole. Je te prie qu'elle vienne, qu'elle soit bien reçue, Seigneur Dieu, dans un bon cœur, Seigneur Dieu. Afin que parce que le malin peut utiliser la parole pour nous accuser, et toi, Seigneur, tu utilises ta parole pour nous guérir. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Et puis, je te prie, Seigneur Dieu, de bénir mes auditeurs, puis de me bénir aussi. Je suis prêt à changer mon message, Seigneur Dieu, si tu veux. Amen. OK. Dans ce passage-là, on voit que le message s'adresse aux foules. Mais dans Luc, il s'adresse aux foules, mais dans Matthieu, on voit qu'il change son message à un certain moment donné. Il parle aux foules. Dans Luc, tu vois qu'il parle aux foules, mais dans Matthieu, tu dis, à un moment, il dit, pendant qu'il parlait, il a vu les pharisiens puis les sadducéens s'approcher, puis là, il a comme fait un message pour eux. C'est important quand même de voir les synoptiques. Les synoptiques, c'est plusieurs regards sur un même événement ou des événements semblables qui sont décrits par deux ou trois évangélistes. Souvent, Jean, il n'est pas dans on va appeler les évangiles synoptiques. Mais Luc, Marc et Matthieu vont souvent décrire l'événement. Donc, c'est important d'aller voir les passages parallèles pour voir est-ce que c'est vraiment à toute la foule qui traite les gens d'hypocrites, puis de vipères, puis tout ça. Alors, dans le passage, on s'aperçoit qu'il y a des pharisiens et des sadducéens, puis Jean-Baptiste, il n'est pas trop content avec eux autres. Ces gens-là viennent pour se faire baptiser. Et il va refuser de les baptiser, ou encore, ils viennent assister au baptême, puis on ne sait pas encore s'ils veulent se faire baptiser, mais il va leur dire, il va les traiter de vipères, puis il va leur poser une question, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Les pharisiens, c'était l'élite de l'enseignement. C'était les pros de l'écriture du temps. On se tournait vers eux autres comme étant la référence. Et c'était donc les enseignants, c'était les scribes. La majorité des scribes faisaient partie de cette secte-là, des pharisiens. Eux autres, les pharisiens, ça veut dire ceux qui sont à part. Au début, quand ils ont été composés, c'était pour s'abstenir du service militaire dans les 400 ans qui ont précédé là, la venue de Jésus. C'est né là, ce groupe-là. Puis eux autres, dans le fond, ils disaient, il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de Dieu à nouveau. Fait qu'on ne va pas aller au service militaire, on va se consacrer à l'Écriture pour enseigner le peuple de Dieu pour qu'on ne retourne pas dans l'idolâtrie. Et là, c'est façonné plein de règles, des règles traditionnelles, pour pas qu'on retourne dans l'idolâtrie. Au départ, c'était les amoureux de la parole, les séparés, ceux qui se mettent à part pour la parole. Puis tranquillement, ils ont pris une fierté et un grand honneur à être des gens séparés du reste du peuple, puis aussi qu'Israël était une nation bien particulière, séparée de toutes les nations. Hein? Et il y avait cet orgueil-là de dire, hey, nous, on est comme les favorisés du ciel, tu sais. Puis nous autres, on jeûne, nous autres, on donne notre dîme, nous autres, on fait, tu sais. Puis il y avait toute cette fierté dans des règles qu'ils s'étaient faites pour se sentir comme irréprochables, si on peut dire, avec les règles qu'ils s'étaient mis en place. Donc, favorisé de Dieu et caché derrière une idée que parce qu'on est descendant d'Abraham, ben on est sauvé. On n'ira pas à la géhenne, au feu à venir, la colère à venir. Nous, on est absous de ça. Pourquoi? Ben parce qu'on fait partie des chouchous, t'sais, du peuple choisi. Et ils ont mis en valeur des observances comme des fêtes, des prières, des dîmes, des nettoyages particuliers qu'on appelait des ablutions. Mais même s'ils disaient, gars, on est irréprochable, on a tout fait ça, Jésus leur reprochait d'avoir négligé l'amour du prochain et il a fait un sermon sur la montagne. Comme son premier sermon Matthieu 5, 6 et 7, où il disait « Heureux les pauvres, heureux les ci, heureux les ça », il va faire un 8 « Malheur à vous ». Malheur à vous, c'est son dernier. Ceux qui étudient les Écritures disent que ça serait son dernier message public. Et là, il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », il va le dire 8 fois. Et dans une de celles-là, il va dire « Vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau ». Alors, j'étais supposé de vous montrer une photo de quelqu'un qui avale un chameau. C'était bien drôle, là. Donc, il y avait une loi dans le Lévitique qui dit que le peuple de Dieu ne devrait pas manger tout ce qui rampe sur la terre. Fait que, pour être certain qu'il ne mange pas une petite larve ou quelque chose, un petit insecte, il filtrait le moucheron, il passait tout au travers de la soie ou des tissus, des liquides, pour être sûr qu'il n'ingère pas quelque chose qui rampe sur la terre. Mais il dit, vous filtrez le moucheron, mais vous mangez le chameau. Et là, Jésus prenait une chose petite, qui est très, très méticuleuse, comme payer l'amende de la dîme de la menthe. Tu sors, tu sépares ta menthe, là, puis tu donnes le 10% à Dieu. T'sais. Les petites choses, là, il était expert, méticuleux, pour être sûr de faire ça. Mais en le faisant, il n'aimait pas leur prochain, puis il méprisait les gens autour d'eux. Et Jésus leur disait, dans le fond, qu'ils faisaient des choses très méticuleuse pour paraître juste, pour être sûr de ne pas se faire juger. Mais ils étaient manquants dans les choses qui étaient plus importantes, comme l'amour du prochain, la fidélité, être juste. Et l'hypocrisie, c'était qu'ils montraient aux hommes qu'ils étaient irréprochables, alors qu'ils étaient loin de l'être parce qu'ils manquaient d'amour en respectant toutes leurs petites règles et tout ça. Le péché de l'hypocrisie, c'est de vouloir être ce qu'on n'est pas, et c'est vouloir paraître mieux que ce qu'on est en réalité. C'est de vouloir être pur sans l'être. C'est un acharnement à vouloir paraître mieux que ce qu'on est en réalité. Donc, c'est un peu ça, l'hypocrisie, c'est de vouloir présenter une façade qui est le contraire ou très différente de moi. C'est le mot hypocritoukos, en tout cas le mot grec, je me rappelle pas comment c'est, mais ça voulait dire quelqu'un qui est un acteur dans une pièce de théâtre. Quelqu'un qui joue un rôle. C'était le mot qu'on utilisait pour les acteurs dans ce temps-là. Dans le Proverbe 30, c'est écrit, « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer les malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. » Donc, on avait des gens qui paraissaient irréprochables, mais qui... Et quand on a un standard, là, quand on a un standard, on est pire encore quand on se pense irréprochable, parce que avec un standard, on peut évaluer encore plus qu'est-ce que les autres font. Et donc, le pharisien avait en plus sa loi, il avait tous ses critères pour évaluer qu'est-ce que les autres ne faisaient pas. Et ça les rendait des juges sévères. Et on le voit dans les évangiles. Jésus leur disait, « Votre coupe est toute propre à l'extérieur, c'est super. Mais à l'intérieur, il y a du poison dedans. » Donc, Jésus, Jean-Baptiste n'est pas neutre avec eux autres. Il les voit arriver et il dit, « Attendez-moi, attendez une petite minute, j'ai quelque chose à vous dire. » Les Sadducéens, eux autres, ne sont pas amis avec les pharisiens. En fait, ils n'aiment pas toutes les règles que les pharisiens donnent. Eux autres, là, c'est comme, garde, c'est pas vrai ça. C'est tout ce que tu dis là, c'est des traditions, tu as ajouté ça. Mais c'était pas parce qu'ils voulaient revenir à la Torah. Les Sadducéens, ils voulaient pas juste revenir à la Torah et à la révélation de Moïse. Ils voulaient juste pas être encombrés de toutes les règles que les pharisiens amenaient. Fait qu'il y avait vraiment une collision entre ces deux sectes-là. Eux, c'était les prêtres. C'était ceux qui géraient les finances dans les sacrifices, dans le temple, donc c'est les Sadducéens. Et ces gens-là, dans le fond, ils ne voulaient pas être meilleurs. Ils ne voulaient pas de contraintes. Ils ne croyaient pas à la résurrection, ni aux anges, encore moins à une résurrection à venir. Fait que, garde, vive là pour se sauver de quoi, tu sais. C'était des gens mondains, matérialistes. Des gens qui avaient capitulé devant Rome, et la majorité des Sadducéens, ceux qui étaient les plus extrémistes parmi eux, on les appelait les Hérodiens. Ils faisaient partie du parti d'Hérode. Ils s'amourachaient des rangs d'autorité, là. Alors, Jean, il les voit venir, puis il dit, « Hey, ma race de vipères, vous autres, qui vous a enseigner à fuir le jugement à venir. Luc dit vraiment que c'est à eux et non pas à la foule qui s'adresse. Paul était en train de faire un feu dans Acte 28, il était sur une île. Puis en faisant un feu, il y a une vipère qui s'était cachée dans les branches, puis elle a sauté sa main, puis elle l'a pognée. Puis là, les gens, ils regardaient en voulant dire, il va gonfler, puis il va crever, ça sera pas long. T'sais. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Une vipère qui mord le bras de Paul. Et là, on voit la vipère. Fait que j'ai regardé un peu les... Je trouvais ça intéressant quand même comme image. La vipère, elle voit le feu, chou, elle se pousse du feu. Hein? Peut-être que des fois, ils font leur nid dans la terre, ou je sais pas, tu sais, j'aimerais ça étudier un peu plus la vipère, puis m'apercevoir que probablement les gens, quand ils faisaient des feux, je sais pas, en tout cas, on le voit dans l'histoire de Paul. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus va prendre les mêmes mots dans son message dans Matthieu 23, et il va prendre la même expression, il va dire « pharisien, serpent, race de vipère ». Il va les appeler encore de la même façon. Et là, j'ai dit, je vais aller voir le contexte de Matthieu 23, verset 33. Et dans ce contexte-là, ils se vantaient, ils peinturent les cercueils de leurs ancêtres, parce que une des lois, c'était que tu ne peux pas toucher un mort ou à quelque chose que touche un mort. Fait qu'ils mettaient de la chaux sur les cimetières, pas vertical, c'était vraiment à plat, là, pour être sûr de ne pas avoir pilé sur un tombeau puis se souiller, tu sais. Puis Jésus dit, vous dites que si vous auriez été dans ce temps-là, vous n'auriez pas tué les prophètes, que vous ne l'auriez pas fait. Puis Jésus leur dit, race de vipères encore. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire, quand je disais dans les commentaires, c'est que comme leurs pères ont tué les prophètes que Dieu leur a envoyés, eux autres aussi se préparent à le faire crucifier. Ils se préparent et Jésus annonce déjà qu'ils ont des intentions qui ne sont pas bienveillantes. Alors, il y avait là au baptême des gens qui venaient, mais qu'ils n'avaient pas des intentions bienveillantes. Jean les discerne comme des vipères. Jean, il dit, il y a une colère à venir. Il y a un jugement qui s'en vient. Et eux, ils ne viennent pas pour se repentir, ils ne viennent pas pour se faire baptiser. Ils ne sont pas bienveillants et ils ne se préparent pas non plus pour la venue du Messie. Et là, Jésus va leur dire au verset 8 de Matthieu 3, il va dire, « Produisez donc du fruit digne de repentance. Prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Les pharisiens sont là, ils pensent que parce qu'ils sont enfants d'Israël, à cause qu'ils sont enfants d'Abraham, ils ont un statut spécial, ils n'ont pas besoin de se repentir. Mais Dieu, il veut des enfants d'Abraham. Puis des enfants d'Abraham, ce n'est pas ceux qui sont nés d'Abraham seulement, mais c'est surtout ceux qui sont nés d'Abraham puis ont la foi. En tout cas, dans la nation d'Israël. Hein? Les fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. On lit ça dans l'Épître de Romains. Finalement, ce qu'il est en train de leur dire, c'est « Désirez donc que Dieu y aille faire un petit ménage en dedans, dans la coupe qui est remplie de méchanceté, là. » Désirez donc que le roi des cieux, qui a le droit d'être obéi, puisse venir aussi à l'intérieur puis faire du ménage dans votre cœur. Reconnaissez que vos motifs, présentement, en venant au baptême, c'est vraiment pas pour changer de vie, pour avoir une nouvelle vie avec le Messie. Jean, il leur parle durement parce qu'on l'a entendu dernièrement, parce qu'il y a encore du travail à faire en profondeur. Et parfois, Dieu nous parle, puis il dit, « J'ai pas fini encore le travail avec toi, je veux aller, puis faire un travail en profondeur avec toi. » Dieu, il est loin d'avoir terminé, mais ils ne sont pas réceptifs. Dans Acte 8, 28, il y a un gars comme ça qui a passé au baptême. Ils l'ont échappé. Colin, Simon, le magicien, lui, il voulait juste faire des tours de magie avec le Saint-Esprit, là, tu sais. Puis Pierre, il le regarde, puis il dit... T'es plein de méchanceté. Puis là, tu sais, il parle. Puis il dit, t'es mieux de prier que Dieu ait compassion de toi, tu sais. On est un peu dans ce même scénario-là ici. Donc, cette croyance-là, que tout Israël serait sauvé, c'est pas dans les Écritures, c'est pas dans l'Ancien Testament, ce n'est promis nulle part. Ça dit que Dieu va bénir au travers la descendance. Et Galates, par l'apôtre Paul, dans Galates 3:16, dit que la descendance, c'est Christ. la position de croire en, au Messie, ça permet de nous placer dans le Messie. C'est-à-dire que quand il va aller et être jugé, c'est moi qui vais être jugé parce que j'ai été placé en lui. Et c'est le jugement à venir pour moi, vient sur Christ à la place de moi. Et je suis béni au travers de la descendance d'Abraham. Luc va dire plus tard dans l'évangile de Luc, dans Luc 7:30, « Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Dieu avait pourvu pour eux qui voient qu'ils avaient besoin d'être pardonnés, qui acceptent le Messie puis soient placés dans le Messie, mais parce qu'ils ont refusé, Jean leur dit, « Écoutez, Dieu est capable de faire des enfants à Abraham avec ces roches-là. S'il a pris à la poussière puis il a créé Adam, eh bien, il est capable aussi de créer des fils d'Abraham, sauf que le problème, c'est que des fils d'Abraham, c'est pas juste d'avoir une descendance à Abraham, c'est de croire comme Abraham. » Fait que Dieu dit, je pourrais, mais ce qu'il veut, c'est avoir des gens qui croient. Là, on se tourne un petit peu plus vers la foule, puis Jean-Baptiste, il prêche. Peut-être que là, il s'est tourné, puis il les a vus. Peut-être qu'il est allé peut-être plus en privé avec eux autres. Peut-être qu'il les a adressés en continuant à prêcher, peu importe. Mais le texte, il n'est pas décousu d'une certaine manière. On ne voit pas qu'il s'est mis à part, qu'il leur a parlé. Fait que probablement que les soldats, les gens de mauvaise vie, les prostituées, les autres personnes écoutaient. Et la foule n'est pas insensible à ce que Jean-Baptiste dit. Ça devait être tout un show hein, de dire « Hey, les leaders, ils se font parler dans le casque pendant qu'ils leur parlent à eux. Ils ne parlent pas de moi. » Ben bon pour eux. Moi, je l'ai vu, ce publicain-là. Et, pas ce publicain-là, mais ce pharisien-là, l'autre jour, il était dur avec mon mari. Puis, tiens, ben bon pour lui, tu sais. C'est pas ça qu'on voit dans le texte. Ce qu'on voit, c'est Luc en parle bien, je le résume. Ah non, on va aller dans Luc 9, si vous voulez. Regardez bien la réaction du peuple ici. Puis, comme je vous dis, il n'y a pas l'air d'avoir de brisure dans le texte. Ça a l'air vraiment de continuer. Fait qu'il dit au verset 9, « Déjà, la hache est à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé au feu. » Verset 10, « La foule l'interrogea. « Que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et leur dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez pas plus que ce qui vous a été ordonné. » Et des soldats lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Qu'est-ce qu'on voit? Ils ne sont pas en train de penser, « Hey, qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? » Le soldat, il pense à lui. Le publicain, il pense à lui. Les gens du peuple pensent à eux. Puis aux gens du peuple, c'est d'être généreux. Aux collecteurs d'impôts, c'est de ne pas charger pour un gain. On pouvait charger beaucoup plus puis voler nos confrères. Les soldats, de ne pas utiliser le fait que je suis un soldat pour ramasser plus de richesses. Il y a une étude, ça j'avais besoin de mon PowerPoint pour vous l'afficher, mais il y a une étude psychologique qui a été faite en Ohio par un chercheur, Roy Lewicki, Beth Pollin et Robert Lant. Et ils ont fait des tests pour savoir comment les repentances étaient reçues. Puis la conclusion, c'était que toutes les repentances ne s'équivalent pas. Là, on parle de 1 à 1. Fait que vous êtes un employeur, puis vous faites partie des 300... Il y a eu 330 personnes qui ont passé une entrevue à une personne qui a perdu son emploi ailleurs. Puis là, vous avez le scénario. Puis dans les 330 scénarios, il y en a la moitié qui ont le scénario la personne a fait une erreur, mais oups, tu sais, elle voulait pas la faire, mais elle l'a fait. Puis l'autre 100 personnes, ils ont le scénario comme quoi qu'elle a fait une erreur, puis que c'était volontiers qu'elle ait fait cette erreur-là. Et ils ont demandé, là ils ont passé une entrevue, puis là les gens sont venus passer l'entrevue, puis là, on leur a posé la question, c'est peux-tu me parler de cet événement-là? Et j'ai demandé pardon, c'était le plus bas dans la réception que la repentance était bien reçue. S'il y avait le résumé là, de cette étude-là, que je ne peux pas vraiment, il y avait 6 éléments dans une repentance qui est bien reçue par quelqu'un. Je ne suis pas capable de m'en souvenir complètement. Mais il disait que s'il y avait une chose qui était le mieux reçue de la part de ceux qui avaient passé le test, là, c'était « j'ai pris responsabilité sur ce qui est arrivé ». Que ce soit une erreur bénigne ou quelque chose que la personne voulait faire, puis la chose qui était la moins bien reçue, surtout pour l'erreur que c'était voulu, que le mal avait été fait de façon volontaire, j'ai demandé pardon, c'était comme ça, mais je prends responsabilité de ce que j'ai fait. Puis il y avait là-dedans, je voudrais réparer, je serais prêt à faire une déclaration. Ça, c'est, j'imagine, quand c'est des scandales publics, des choses comme ça. En tout cas, c'est intéressant. Résumé, un seul élément serait à retenir, c'est j'ai une part dans ce qui est arrivé. J'ai une responsabilité. Et là, tu as ces soldats-là qui disent ben qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire on sait qu'on a fait quelque chose. Puis il faut qu'on fasse mieux. Et ils vont corriger. C'est écrit, on l'a lu tantôt, et tout le peuple confessait leur péché au pluriel et se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il y avait un réveil. Dans, vous connaissez Chiniki? Je vous en ai parlé souvent. Hein? Je vais le résumer. Il disait qu'il était rendu à la moitié de son discours, puis lui, il avait parti d'une société de la tempérance. La société de la tempérance, c'était que l'alcoolisme était en train de ravager nos villes et nos villages. Les pères alcooliques battaient leurs enfants. Il y avait de la pauvreté, de l'analphabétisation, puis une des grosses sources de ça, c'était l'alcoolisme. Puis lui, il était à Longueuil quand ça s'est passé, puis il a prêché devant environ 2000 personnes, puis il dit, bien plus que ça, parce qu'il y en a 2000 qui sont venus embrasser le crucifix. Puis tu sais, il n'était pas sauvé quand il a fait ça. Mais il voyait le mal, fait qu'il décrivait le malheur des orphelins. Il décrivait le malheur dans lequel ils étaient, puis il présentait l'alcool comme étant la bête à éliminer. Tu sais. Puis, fait qu'il dit, je vais résumer parce que je ne veux vraiment pas trop passer de temps ici. Le Seigneur avait évidemment béni les humbles efforts de son indigne serviteur. 2300 citoyens de Longueuil s'enrôlèrent sous les saintes bannières de la tempérance au lieu de les inviter à signer une promesse écrite. Je l'ai prié de venir au pied de l'autel baiser le crucifix. Et donc, il faisait un geste là, de s'engager à plus boire. Tu sais. Et la première chose que la plupart de ces admirables habitants de Longueuil firent en arrivant chez eux fut de briser les cruches et les barils et de répandre sur la terre la boisson détestable qui leur avait coûté des larmes et de l'argent. Une semaine plus tard, j'avais reçu l'appel de 80 paroisses pour aller y établir la Société de la tempérance. Je me mis tout de suite à l'œuvre. Les diocèses de Montréal, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, contenant plus de 200 paroisses, avec une population de 200 000 âmes, s'enrôlèrent généreusement sous les saintes bannières de la tempérance. Et pendant cette année et les trois qui la suivirent, je prononçai 1800 discours que le Seigneur bénit également partout au travers, au-delà de mes espérances. Le changement fut si rapide et si sérieux qu'il semblait tenir plus du miracle que d'une cause naturelle. Partout les tavernes furent fermées, toutes les distilleries, excepté une, eurent changé leur destination première. Et cela sans le secours d'une loi spéciale. Ce fut l'œuvre spontanée d'un peuple intelligent qui avait entièrement cessé de faire usage de boissons alcooliques parce qu'il était parfaitement persuadé que ce détestable breuvage était injurieux à l'homme, qu'il détruisait ses forces, affaiblissait son intelligence, paralysait ses bras, dévorait sa fortune, abrégeait sa vie, condamnait son âme et dégradant sa partie et outrageant son Dieu. Ça me faisait penser, quand je lisais Jean-Baptiste, puis qu'il allait fort sur l'intempérance, qu'il allait fort sur le péché et sur la repentance, ça me faisait penser un peu à ce changement moral-là, de dire, je réalise qu'est-ce que ça fait aux autres et à Dieu, qu'est-ce que je fais, qui je suis. Les cœurs des pères revenaient vers leurs enfants. Le cœur des rebelles à la sagesse des justes. Il y avait un réveil assez que Luc il dit ceci. Il dit dans 3:15, regardez avec moi le verset 15, « Le peuple était dans l'attente et tout le peuple se demandait même si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. » Il était là, il dit « Moi, je me suis fait baptiser, là, moi j'attends. » Ils ont dit que le Messie viendrait, fait qu'il venait, puis attendait. Il attendait quelque chose, il attendait quelque chose qui était sur le point d'arriver, et c'est arrivé. Jésus est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste, puis il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, suivez-le. » Pouf! Là, on n'entend presque plus parler de Jean-Baptiste. Là, il va être dans l'ombre. Dans mon prochain message, on va étudier sa vie, le reste de sa vie, ses combats, ses doutes, et comment est-ce que ça a été, comment Dieu a travaillé au travers de lui. Mais il n'est pas le Messie. Il dit, je suis loin d'être le Messie. Et c'est pour ça qu'il va dire, je suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Un esclave en Israël, c'est lui qui lavait les pieds. C'était le plus bas dans les hiérarchies des esclaves. C'est lui, quand tu étais reçu, il lavait les pieds. Il dit, je suis même pas digne d'être appelé celui qui va délier les courroies. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui vient après moi, il est bien plus puissant que moi. Lui, il va baptiser d'esprit et de feu. Et le mot baptême, chez les Hébreux, c'était des baptêmes. Encore aujourd'hui, si tu veux devenir juif, admettons que tu es un gentil, puis tu veux devenir juif, il faut que tu te fasses baptiser. Le mot veut dire, en hébreu, il y a deux mots, il y a mitkva, puis il y a tvila. Et un veut dire baptistère, l'autre veut dire immergé. C'est toujours plonger dedans, c'est toujours submergé. C'est jamais un sprinkling dans le front ou quelque chose. Puis encore aujourd'hui, tu veux devenir israélite, tu dois te faire baptiser, tu dois passer au travers d'un baptême d'eau. Et dans le grec, le mot veut dire, il y a deux mots, il y a bapto puis baptizo. Et bapto, ça veut dire plonger, mais teindre. Comme quand on teint nos cheveux, là. Ou qu'on teint un bout de tissu, on le rentre dans une teinture, il était d'une couleur avant qu'on le mette dedans, il est d'une autre couleur après qu'il en ressorte. Eh bien, le baptême, c'est ça, c'est l'action d'immerger, mais c'est la raison de l'action, c'est pour s'identifier. Et lorsque quelqu'un se fait baptiser pour le Seigneur Jésus, il s'identifie à lui comme étant le Messie. Hein? Puis nous, encore plus qu'eux, on ne fait pas juste s'identifier qui est le Messie, mais qui est mort, qui a été enseveli, le baptême sous l'eau, et qui est ressuscité d'entre les morts, et que j'ai été placé en lui quand tout ça s'est passé. Parce que nous, on le sait que c'est arrivé que quand Jésus-Christ est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a son vent à la main, et il nettoiera son air. Fait que là, il dit, il baptisera de Saint-Esprit et de feu, et il a son vent à la main. Le vent, c'est comme, tu peux montrer la première image, Sébastien? Le vent, c'est on prenait le grain qu'on avait. Enfin, on avait battu le grain sur le plancher. Fait que c'est une grosse matraque, le fléau qu'on appelait. C'est une grosse matraque. Puis les gars, ils sont là face à un à l'autre. Paf, 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 paf. Ça, c'est la vidéo que tu as supposé te montrer. Puis là, la paille puis le grain, il est cassé là. Puis là, les grains sortent de l'épi puis ils tombent par terre. Puis là, après ça, ils vont l'enlever. La paille, puis ils vont prendre le restant, puis ils vont le passer dans un vent ventilateur. Fait que dans le fond, dans le temps, c'était un genre de cuvette que tu lances dans les airs comme ça, puis la paille qui est légère part dans le vent. Toutes les petites coquilles autour du grain, là, qui n'étaient pas comestibles, sont toutes enlevées, comme ça ici. Et là, ça parle vraiment de la récolte à la fin des temps, où Dieu va prendre le grain, et il va les amener avec lui dans son grenier, puis il va brûler le reste dans un feu qui ne s'éteint point. Le baptême du Saint-Esprit, c'est assez clair pour nous. La Bible nous l'explique clairement que quand on a cru en Christ, on a été placé en Christ dans sa mort et sa résurrection. On a été placé parmi les croyants qui vont être au ciel avec lui, qui est représenté dans l'image le grenier. Le feu, on va laisser faire la vidéo, à cause du temps. Le feu, ça, c'est quelque chose. C'est une immersion d'une personne qui a rejeté le salut en Jésus-Christ dans le lac de feu pour l'éternité, au siècle des siècles. Apocalypse 20, 11 à 15. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux et le ciel s'enfuirent de sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert et celui qui est le livre et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. À ce moment-là, Jésus va dire, il y a eu un temps où je t'ai dit que ce que l'homme a fait mérite le feu de la géhenne. Tu as persisté à dire que tu n'étais pas si pire que ça. Tu as essayé de travailler à être une bonne personne. Je t'ai dit que la seule justice que j'acceptais, c'était ce que j'ai fait pour toi. Mais tu as refusé parce que tu pensais que ta justice était suffisante. Je te trouve pas écrit dans le livre de vie. Tu n'as pas reçu l'agneau qui enlève le péché. C'est quelque chose. Le jour de la récolte, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Tu n'as pas été incorporé parmi les croyants. Tu seras baptisé de feu. Et tout de suite après avoir parlé, il dit « Hey, moi là, je suis pas le Messie, je suis même pas digne de détacher ses sandales, mais celui qui s'en vient, je te dis, il y a un pouvoir de vie sur toi, il y a un pouvoir de vie, un pouvoir de mort, il y a un pouvoir de faire vivre celui qui croit en lui, il y a un pouvoir de condamner celui qui croit pas. » Mais tout de suite après, Luc il continue puis il dit que Jean-Baptiste continuait comme ça à annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est pas « Hey, il y a un lac! » Nous, on n'est pas en train de faire comme Jonas. Dans 3 jours, cette ville-ci va être détruite. Nous, on dit « Il a été détruit. Le péché a été détruit. Vous ne serez pas détruits. Faites juste reconnaître que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Tournez-vous vers celui qui a été détruit et vous allez être sauvés. » C'est une bonne nouvelle, mais Jean-Baptiste, il avait comme un entre-deux, là, il voyait que c'était l'agneau qui enlevait les péchés du monde, mais je ne sais pas s'il voyait que son petit cousin allait être crucifié. Je ne sais pas jusqu'à quel point il comprenait ça. Mais c'est écrit au verset 18 et 20, jusqu'à 20 de Luc, il dit « C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. » C'est une bonne nouvelle qu'on a. Même si le lac de feu, c'est quelque chose. J'ai demandé des prières un matin quand j'ai préparé ce message-là. J'ai dit, pour que ça soit bien reçu, Dieu veut sauver tout homme. Le verset 19, il continue, « Mais Hérode, le tétrarque, ayant été repris par Jean au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. » Jean disait, « Hérode, je te parle. » C'est pas dit qu'il a prêché à Hérode. Il est allé voir Hérode puis il a dit tout ce qu'il faisait de pas bien. OK? Hérodias a le mal géré ça. Marc, il nous explique que si Jean s'est ramassé en prison, c'est pas vraiment à cause de Hérode. Hérode, il a pris la femme de son frère, puis Philippe, puis il entendait que Jean n'était pas trop d'accord avec ça. Il devait manger ses raisins avec sa robe puis sa petite couronne en fleurie, là. Marc, il dit qu'elle était furieuse contre Jean. Elle l'a fait enfermer, donc elle avait le pouvoir quand même. C'est Jean qui l'a enfermé, mais il s'est écrit, Marc, il dit, à cause d'elle. Puis c'est écrit, il l'a protégé. Pourquoi est-ce qu'il le protégeait? Jean était plus safe en prison que dans les rues parce qu'elle voulait le faire tuer. C'est écrit, car elle voulait le mettre à mort. Puis il allait le voir, puis il aimait ça de l'écouter. Il s'assisait peut-être avec ses raisins, puis il allait l'écouter, puis il prenait ça avec un grain de sel, mais c'est écrit, il aimait l'écouter, mais il était perplexe. Il devait retourner puis dire, « Ouais, si Jean a raison, il faudrait que je la renvoie. » Il était perplexe. Jean ne manquait pas d'audace d'aller voir Hérode comme ça. Il manquait pas, comme on dirait au Québec, de toupette. Hérode, placé devant lui-même, devait penser à la repentance. La repentance, ça veut dire revenir, repenser à une action. Ça a un sens moral, puis ça a l'idée d'une attitude de dire « je vais me reprendre ». C'est-à-dire que je réalise que j'ai fait ça, je vais me reprendre. À matin, en conclusion, j'arrive à la fin de mon message. On va voir dans mon prochain message que Jean-Baptiste, là, Luc, il prétend dire les choses en ordre chronologique, mais il va ajouter un commentaire qui va dire il a ajouté aux mauvaises actions celle de le faire mettre à mort. Ben, on voit que ça arrive beaucoup plus tard parce que là, on va voir qu'il va baptiser Jésus. Donc, dans mon prochain message, on va voir le baptême de Jésus aussi, puis le reste de la vie et la fin de Jean-Baptiste dans ça. Mais un matin, simplement, qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous de voir un message qui a été sévère envers les pharisiens et les sadducéens, de voir aussi le reste du peuple, leur attitude, comment ils ont agi, les interventions privées et publiques de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Une chose que j'aurais aimé dire, c'est que les paroles d'exhortation qui sont utilisées par Dieu pour nous inciter. Nos paroles, quand on parle de moyens pour être sauvé, il y a un moment où on doit arriver puis amener la personne à reconnaître qu'on a péché devant Dieu. Nos paroles sont utilisées pour amener les gens au salut. Mais les paroles de ma femme, de mon fils, ma mère, mon père, ma sœur, un membre de l'Église, sont utiles aussi pour moi. Repentance veut dire y repenser après coup, y réfléchir, changer d'idée. Tu as le regret, ça c'est quand tu as changé de sentiment. Là, ici, ça parle de dire non, je réfléchis comme il faut, puis j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Puis j'aimerais me reprendre, j'aimerais réparer. La Bible, la parole de Dieu, elle peut nous aider à revenir dans notre cœur, puis de nous aider à discerner aussi ces choses-là. Même si Jean-Baptiste avait des paroles qui étaient peut-être blessantes, même s'il parlait à Hérode, puis que ça agressait sa femme, c'est peut-être vrai. Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait à Hérode? Alors, c'est important de prendre la parole de Dieu, puis de s'analyser soi-même. La Bible dit qu'elle est un juge, qu'une épée à double tranchant, puis elle vient diviser, puis elle vient juger, c'est écrit. Puis le mot, c'est discerner. Elle vient mettre en lumière ce qui a besoin d'être réparé chez nous. Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas tomber dans l'accusation du diable quand on sent qu'on est coupable de quelque chose? Comment est-ce qu'on fait pour sortir, pour ne pas tomber victime des accusations de l'adversaire? Parce que c'est un sujet sensible, parce que le diable s'en sert énormément pour nous mettre à terre, pour nous mettre la face dans nos fautes. Comment on fait? Premièrement, on confesse nos péchés à Dieu. Si on sait qu'on a péché ou qu'on a offensé notre prochain, on peut demander à celui qui l'a créé à son image, pardon, à notre Créateur. Puis on peut faire une confession à l'autre aussi. Puis ça, je trouve que j'ai besoin de m'améliorer. Puis je crois que c'est une vertu qui se perd. La confession à l'autre, c'est est-ce que tu as admis ton tort? Est-ce que tu as offert aussi de réparer? Vous savez, quand il y a quelque chose qui était brisé chez l'autre, le mieux pour savoir qu'est-ce qu'il a réparé, c'est l'autre. Alors, c'est mieux de demander est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour réparer? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour que ça ne se reproduise plus? Vous lui demandez comment tu aurais aimé que je te traite ou que je te parle ou qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Et en demandant à l'autre s'il peut y avoir réparation, déjà, si ce n'est pas possible, ben, on peut te dégager là. Les soldats, les publicains, le peuple disaient, ben oui, mais Jean-Baptiste, on va faire quoi? Ben, arrêtez de voler. Arrêtez d'abuser de votre autorité. Il leur disait, puis ces gars-là, ils disaient, OK, puis ils se faisaient baptiser. Quand on a fait ça, quand on a demandé pardon à Dieu et aux hommes, qu'est-ce qu'on fait? On rebondit. On a entendu dernièrement, des fois on évangélisait, puis c'était pas une bonne évangile, tu sais. Bien, des fois on demande pardon, puis c'est pas une bonne demande de pardon. C'est important de réaliser qu'une bonne demande de pardon, il y a nécessairement l'idée d'avoir fait, avoir pris part dans le mal qui est arrivé. Hein? Donc, il y a une responsabilité qui est là, puis une demande de pardon. Mais une fois que c'est fait, là, puis l'autre, là, il est amer. Toi, tu as quand même été libéré de ta dette. As-tu dépassé 7 fois, 77 fois des offenses envers cette personne-là? Puis en passant, ce n'est pas la limite, mais c'est au moins un plancher. Parce que les disciples ont demandé à Jésus, « Combien de fois il va falloir que je pardonne à mon frère? 77 fois, 7 fois? » Puis Jésus dit, la réponse dans le Nouveau Testament, c'est Éphésiens 4, 12, « Comme il vous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. » Et là, ce qui arrive, c'est que quand toi, tu as demandé pardon puis tu as offert réparation, tu es dégagé. Si une fois, là, il y a une pression qui vient sur celui qui doit pardonner. Donc, moi, je suis rendu celui qui doit pardonner. Maintenant, c'est avec moi que Dieu lutte. Il va me dire de pardonner comme Christ m'a pardonné. Et on va tous les deux être placés devant Christ. Donc, on va sortir des accusations du diable si on a fait ça, si on a demandé pardon, si on a offert la réparation, si on a confessé nos péchés à Dieu. Le diable ne pourra pas gagner contre nous. Mais savez-vous quoi? Des fois, on tombe dans le piège que l'autre est amer, puis il n'y a rien que je peux faire autre que j'ai demandé pardon, puis j'ai offert la réparation. Mais on ne peut pas être prisonnier d'un manque de pardon. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que l'autre soit heureux avec moi? Il faut sortir de là et dire, la responsabilité, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, la personne, elle doit vivre dans la grâce de Dieu, pas se priver de la grâce de Dieu, puis pardonner. Le combat est rendu une partie le sien. Je pense que beaucoup d'entre nous, surtout peut-être les hypersensibles, on a besoin d'apprendre à être heureux quand la planète entière n'est pas heureuse avec nous. Puis pas tomber dans le piège de chercher à applaire pour amadouer parce qu'il y a un manque de pardon. De se respecter assez pour dire, « Sais-tu quoi? Je veux aimer mieux. Je veux aimer mieux Dieu, puis je veux aimer mieux mon prochain. Je ne l'ai pas fait tout le temps. Et c'est là que je veux aller, c'est vers là que je veux aller. Mais je ne suis pas la marionnette de l'amertume, du manque de pardon des autres. » Puis je finis avec ça, « Choisir l'humilité. » Choisir l'humilité, c'est de choisir de donner raison à Dieu. Dans Luc 7, 29, quand ça dit que les pharisiens ils ont rejeté, ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard, le verset d'avant, c'est écrit, les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. L'humilité, ça a été de donner raison à Dieu, de dire, ben, OK, je suis un soldat, oui, j'ai utilisé ma position de pouvoir pour extorquer des gens, oui, je serais prêt à changer, à ne plus faire ça pour marcher en bonne conscience avec mon Sauveur. Je me fais baptiser. L'humilité, elle regarde à moi, elle ne regarde pas à l'autre. L'humilité, elle ne dit pas, « Ouais, mais il y en a des pires que moi. Regarde comment que les pharisiens se sont fait parler. Regarde comment c'est lui qui avait tort, puis pas moi. » Non. L'humilité, elle dit, « Hey, je regarde à moi, je fais un ménage dans mon cœur, puis je veux être une personne qui va aimer mieux. » Et donc, une personne qui est humble ne donnera pas des bonnes raisons d'avoir fait le mal. Ah, tu sais, Seigneur, j'ai fait ça, mais c'est à cause de ça, 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 ça. Une fois, une personne, elle s'excuse, puis elle dit que c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Ça dilue les raisons. Dans le fond, ça donne une bonne raison d'avoir fait le mal. Non. L'humilité est prête à nommer les choses par leur nom. Elle ne tente pas de trouver quelqu'un de pire qu'elle pour avoir fait, pour éviter de faire l'exercice dans son cœur. Donc, choisir l'humilité, c'est de choisir de donner raison à Dieu. Pourquoi est-ce que la repentance est si importante? La repentance, c'est ce qui vient faire enlever l'entrave qu'on a entre nous et notre Dieu de l'aimer. C'est d'adresser ce qui est venu briser la relation entre nous et notre Créateur. Et c'est ce qui nous empêche aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, pour notre Dieu, c'est quelque chose de très important. Parce que ça vient débloquer. Demandez à l'enfant d'un alcoolique si c'est important la repentance de son père. Et l'abandon de l'alcool dans ceci. Demandez à celui qui reçoit maintenant l'amour inconditionnel comment c'est important de la part de l'autre d'avoir été brisé, puis de s'être repenti devant Dieu pour aimer mieux. Ça fait toute la différence. On va être reconnus, nous, les chrétiens, à l'amour qu'on est capable de se donner les uns aux autres. Et Dieu, il dit, un grand ménage, ça fait du bien de temps en temps. Fait que je vais vous envoyer un Jean-Baptiste pour que vous aimiez mieux Dieu et votre prochain. Amen. Père, merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, que tu nous as acceptés dans le bien-aimé. Et Romain est très clair, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. On n'est pas accusable, on n'est pas condamnable, on est affranchi par Jésus-Christ. Mais de vouloir prétendre qu'il n'y a rien à changer, c'est de vouloir être arrivé au ciel avant d'y être. Et comme tu es venu faire ta demeure en nous, et que tu es notre Père et que tu nous aimes, mais tu es aussi notre Roi et tu as le droit d'être obéi, bien, merci Seigneur que ta parole elle vient nous corriger. Puis aussi, donne-nous l'humilité. Donne-moi l'humilité. J'en parlais dernièrement comment c'était pour moi-même un combat qu'est-ce que je suis en train de prêcher parce que je suis une personne hyper sensible. Et tu sais comment j'ai de la misère à recevoir, Seigneur Dieu, des autres. Et donne-moi cette humilité-là d'être capable, peu importe comment c'est enveloppé, de ne pas avoir le cœur de la femme d'Hérode, mais d'avoir le cœur des soldats ou des publicains, de ceux qui disaient, « Qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? C'est bien beau, là, mais tu ne m'as certainement pas parlé d'un péché, là, parce que tu voulais que je reste dedans ou tu voulais m'écraser. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Puis tu vas nous montrer comment aimer mieux dans ta parole, Seigneur Dieu. Pour certains d'entre nous, la lutte, c'est de ne pas être capable de dire à l'autre qu'on a eu tort. On aime bien ça, te demander pardon à toi, mais c'est humiliant de le demander à l'autre, surtout que l'autre, peut-être que l'autre ne veut même pas reconnaître ses torts. C'est dur d'aller. Puis. Donne-nous ce cœur humble-là d'être capable de le faire. De dire, « Hey, sais-tu quoi? Je te demande pardon. Mais avant, y a-tu quelque chose que je pourrais faire pour réparer? » Pour prendre soin de notre relation. Bénis le restant de cette journée, Seigneur Dieu. Puis merci pour Jean-Baptiste. Amen.